Orient Extrême. L'actualité asiatique vue par Adextra, première plateforme de l'action missionnaire en Asie. Une émission présentée par Joseph Saunier.
Allez aux pauvres, c'est là que vous trouverez Dieu. Ce que vous faites pour eux, c'est à Dieu même que vous le faites. Le service prochain n'est pas une option, c'est une nécessité pour celui qui aime véritablement le Christ. Le pauvre est notre maître et nous sommes ses serviteurs. Auditeurs, bonjour. Comme vous l'avez compris à travers cette sentence de Saint Vincent de Paul, c'est bien de service dont nous allons parler aujourd'hui, du service envers les plus pauvres, pour participer à la compréhension de la réalité de ce fléau. Et nous partons cette semaine au cœur de l'océan Indien. Amis auditeurs, vous êtes bien sur Orient Extrême, l'émission Missions étrangères de Paris, qui vous plonge au cœur de l'Asie, de Radio Notre-Dame et RCF. Vous l'avez compris, nous allons aujourd'hui à Madagascar et j'accueille aujourd'hui un membre de l'association École de Madagascar. Bonjour Bertille Bellé.
Bonjour Joseph.
Bertille, présentez-nous cette magnifique association. Quel est son objectif ?
Bien sûr. Alors, École de Madagascar, c'est une association, plus exactement un fonds de dotation, qui a été créé à l'initiative du père Bertrand. C'est un père MEP qui a été envoyé à Madagascar en 1996 et qui, en 2010, avec plusieurs volontaires, a décidé de créer ce fonds pour récolter de l'argent qui permet de soutenir la création, la construction, l'aménagement de plusieurs écoles à Madagascar. Alors, les projets soutenus ne sont pas dans toute l'île de Madagascar, qui est un très vaste territoire, plus vaste que la France d'ailleurs. Ils sont localisés dans une région au nord qui s'appelle Sofia. C'est une région dans laquelle les services et les organismes internationaux vont très peu, car elle est assez inaccessible. L'état des routes est plutôt catastrophique. Ce qui la rend difficile d'accès. Cette région est du coup celle dans laquelle le père Bertrand assurait son service de mission et il a choisi de pousser l'essor de la construction d'écoles, d'églises et d'autres infrastructures. L'objectif du fonds est vraiment de soutenir la construction de ces écoles.
Vous nous parlez du père Bertrand de Bourran qui a donc œuvré à Madagascar pendant de nombreuses années. Comment a débuté l'histoire de l'association ? Je crois que ce sont des anciens volontaires MEP qui ont décidé de la formation de ce fonds.
Oui, tout à fait. Une fois revenus en France, les anciens volontaires gardent un lien d'attachement très fort avec Madagascar et on a souvent envie de prolonger sa mission en France. Le fonds de dotation est donc un excellent moyen pour poursuivre cette action, même à distance.
Pourquoi est-ce que l'éducation est la priorité d'École de Madagascar ? On comprend avec le nom que le fonds de dotation s'occupe essentiellement de la formation d'écoles. Pourquoi est-ce que, précisément, vous avez décidé d'axer vos efforts sur la construction d'écoles ?
Parce qu'on est convaincu que l'essor d'un pays, son équilibre culturel, économique, se fonde grâce à l'éducation des jeunes enfants. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup d'enfants qui ne peuvent pas être scolarisés parce qu'ils se trouvent isolés dans des villages de brousse qui sont par ailleurs absolument magnifiques, mais qui ne bénéficient pas forcément des services d'enseignement.
Vous nous avez parlé de Sofia, vous nous parlez de brousse. Présentez-nous un petit peu les lieux, Bertille. Comment est-ce que vous voyez cette région de Madagascar par rapport à la France notamment ?
Madagascar, c'est une île magnifique. On l'appelle l'île rouge, qui tire son nom de cette terre avec cette couleur si intense qu'on trouve là-bas. C'est un territoire extrêmement diversifié. Moi, j'étais en mission sur la côte est, à Tamatave. Donc, un paysage côtier peuplé de cocotiers, de palmiers, avec une flore assez luxuriante. Et quand on voyage dans l'île, les paysages sont extrêmement différents. Il peut y avoir des espaces beaucoup plus vallonnés, voire montagneux, des grands espaces remplis de rizières, des espaces désertiques, notamment au sud. Donc, d'une région à l'autre, ce n'est pas du tout la même faune ni la même flore.
Et la population, comment est-elle? Quel est son état d'esprit?
Alors, la population malgache fonctionne encore en tribus. Ces tribus qui sont donc très distinctes, ont quelquefois des distinctions dans leur langage, dans leur manière de se vêtir, de se coiffer. Physiquement aussi, ils ont des particularités qui fait qu'on va les différencier. Et au niveau du comportement, c'est un peuple qui est extrêmement accueillant, extrêmement joyeux. Moi, c'est ce qui m'a touchée quand je suis allée à Madagascar. C'est leur joie de vivre, le fait qu'ils ne s'arc-boutent pas sur des petits détails sur lesquels en France ou en Europe, on va pouvoir vite s'alarmer. Et un peuple plutôt pacifique.
Est-ce que tu dirais qu'il y a des inégalités entre les régions? On sait que la capitale de Madagascar est Antananarivo, une capitale qui est vraiment réputée pour être pauvre. Est-ce qu'il y a des régions peut-être dans lesquelles le tourisme se déploie, ou est-ce qu'au contraire tu dirais que l'ensemble du pays souffre de cette pauvreté?
Alors, la capitale Antananarivo est peuplée par la tribu des Mernes. Ça reste quand même la région la plus riche et la plus dynamique de Madagascar. Après, tu parles de tourisme, et justement, moi, je me dis que Madagascar, c'est un territoire magnifique et qu'il faudrait développer l'essor touristique parce que ces régions sont absolument sublimes. Malheureusement, peut-être que les infrastructures trop vétustes déroutent les touristes habitués au confort que nous sommes. Faut être dans une dynamique un peu route, accepter d'être avec son sac à dos dans un taxi brousse qui sursaute à chaque aspérité de la route, être dans des étoiles qui n'ont pas le même standard que ceux qu'on va retrouver en Europe. Mais à part cette dimension de confort, Madagascar a tout pour attirer un tourisme bien plus développé qu'il ne l'est actuellement.
On va revenir à École de Madagascar avec vous, Bertie Bellé. École de Madagascar, quelle est l'action concrète qu'elle déploie au service de la population, et notamment de la population de Port-Berger, puisque c'est là que se déployait l'activité du père Bertrand de Bourran?
Oui. Alors nous, tout au long de l'année, nous effectuons plusieurs actions qui visent à récolter des fonds pour la construction d'écoles autour de Port-Berger, effectivement. Au moment de Noël, il va y avoir le marché Noël, et nous allons vendre des produits d'artisanat malgache. C'est-à-dire que les produits qu'on vend ont été faits par des artisans malgaches, ou alors des personnes qui sont en prison, des femmes en situation de détresse. Ce sont généralement des volontaires qui rentrent avec des valises pleines de ces objets de tout type. Ça peut être des objets en raffia, des objets en cuir, des épices, de la vanille, des nappes brodées. Il y a vraiment une grande diversité dans l'artisanat malgache qui est absolument magnifique. On va les revendre en France avec une plus-value, car les prix à Madagascar sont vraiment dérisoires. Et toutes les recettes de nos ventes sont reversées pour la construction de ces écoles autour de Port-Berger. On effectue d'autres actions. Par exemple, le 14 mai, nous aurons un dîner malgache aux missions étrangères de Paris. Tu es d'ailleurs le bienvenu, ainsi que tous nos auditeurs. Et les recettes de ce dîner seront également reversées pour l'association. Et après, il y a d'autres actions plus ponctuelles. Par exemple, le bol de riz le mercredi décembre. Toutes les recettes des participants étaient pour nous également. Il y a également en juin une troupe de théâtre, les Potimarrans à Lyon, qui offre toute leur billetterie, toutes les recettes de leur billetterie pour une association caritative. Et c'est École de Madagascar qui a été choisie cette année. Donc on va essayer d'actionner des leviers différents pour pouvoir récolter des sources d'argent.
Merci beaucoup pour l'invitation, Bertie. Elle est bien notée sur mon planning. Toutes ces actions, elles ont donc pour vocation de récupérer de l'argent. Ensuite, cet argent, qu'en faites-vous? Vous nous parlez de construction d'écoles aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des écoles qui ont déjà été construites et finalisées par l'action d'École de Madagascar?
Oui, bien sûr. Plusieurs écoles ont été finalisées. C'est 1300 élèves qu'on scolarise chaque année. Et là, on est plus particulièrement sur un projet dans une école à Amparis B. On a pu construire l'année dernière les classes de 6e et 5e. Et un des projets de 2025, c'est les classes de 4e et 3e. Et ça représente à peu près 6300 euros pour construire une salle de classe avec les briques, le ciment, la chemise, le déplacement et le transport de tout le matériel et le mobilier des classes.
Merci beaucoup, Bertille. Tout de suite, c'est l'heure de la pause musicale, amis auditeurs. Nous retrouvons bientôt Bertille. On va parler de son témoignage concret, de sa mission au MEP. Et puis, on va poursuivre sur École de Madagascar et son partenariat avec les MEP. On se retrouve tout de suite, juste après ça.
Without a trace, I just want to be someone. Well, doesn't everyone? And if you feel the great dividing, I want to be the one you're guiding, 'cause I believe that you could lead the way. I just want to be somebody to someone. Oh, I want to be somebody to someone. Oh, I never had nobody and no road home. I wanna be somebody to someone. And if the sun starts setting, the sky goes cold, and if the clouds get heavy and start to fall, I really need somebody to call my own. I wanna be somebody to someone. Someone to you, someone to you, someone to you. Change the world. I'll make the moon shine just for your view. I'll make the starlight circle the room. And if you feel like night is falling, someone, oh, I never had nobody and no road home. I wanna be somebody to someone.
Retrouvons Bertille Bellé, membre de l'association École de Madagascar. Bertille Bellé, avec toi, j'aimerais évoquer votre témoignage personnel, votre mission au sein des missions étrangères de Paris. On a compris avec les différentes réponses que vous étiez donc parti en mission, Bertille. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment est-ce que vous avez vécu cette mission ?
Oui, tout à fait, et avec grand plaisir, parce que ça a été 7 mois absolument merveilleux pour moi. Et qui, sans exagérer, sans vouloir créer du romantisme exagéré, ont véritablement changé ma vie. Donc je suis partie en 2022-2023 à Tamatav, donc c'est une grosse ville portuaire sur la côte est de Madagascar. C'est la ville qui a le plus gros port d'import-export avec le reste du monde. Donc il y a une certaine activité commerciale là-bas. Et qui bénéficie aussi d'un vrai dynamisme au niveau de l'église, notamment avec le père Thomas, un autre père MEP, qui est présent sur place. Il a créé l'Audit, un organisme qui supporte plusieurs projets qui viennent en aide sur différents aspects aux populations malgaches. Et en fait, la majorité de mes missions était orientée vers l'éducation. C'est ce que j'ai réalisé en faisant un petit retour pour préparer dans la perspective de l'émission. Je me suis dit, en fait, oui, la majorité de mes missions et des missions des autres volontaires étaient dans cette perspective d'éducation, de transmission. Moi, celle que j'ai vraiment préférée, elle était à destination des filles mères de Tamatav. Donc, les filles mères, ce sont des très jeunes mamans qui ont quelquefois 12, 13 ans et en moyenne 17 ans. Qui ont un enfant à charge, le père les a quittés, elles n'ont pas de situation familiale suffisamment confortable pour pouvoir assurer leur entretien et celui de leur enfant, et généralement pas d'emploi.
Est-ce que vous savez comment les membres de la cellule volontariat MEP choisissent les missions de ceux qui veulent partir ?
Oui, bien sûr. Alors, à l'image des pères MEP, les volontaires ne choisissent pas forcément leur mission. On exprime des souhaits, on va exprimer nos compétences, nos talents, nos aspirations. Mais de la même manière que les pères MEP reçoivent leur pays de mission et leur mission, nous, en tant que volontaires, on se laisse guider aussi par le Saint-Esprit qui vient éclairer le conseil de décision des encadrants et qui nous assigne un pays avec une certaine mission. Donc moi, c'était Tamatav. Après, pour ce qui est concrètement de mes missions, c'était assez flou. Et du coup, ça s'est dessiné petit à petit sur le terrain, en lien avec le PERMEP, avec ce que moi, j'ai identifié en tant que besoin et en fonction de ce qui me faisait, de ce qui me touchait aussi particulièrement. Et notamment, ce projet Miavouten avec les filles mères me tenait énormément à cœur. Parce que il y avait un véritable lien qui pouvait se créer avec ces filles mères. Il y avait une urgence de les aider. Elles étaient là dans ce foyer qui était tenu par des religieuses pendant 8 mois. On leur dispensait un enseignement qui leur permettait peut-être d'avoir un travail ensuite, de savoir tenir un foyer, d'avoir quelques rudiments sur différents thèmes. Mais elles étaient encore si jeunes et en fait, je me disais, elles ont besoin aussi d'un véritable équilibre de vie, d'avoir une respiration dans leur semaine, plutôt qu'être toujours plongées dans des considérations de charge de famille, de mère de famille, alors qu'elles ont 13, 14, 15, 16 ans. Et je leur faisais des ateliers, à chaque fois différents, qui leur permettaient d'intégrer dans leur semaine une activité soit manuelle, soit sportive, soit culturelle, pour qu'elles aient cette ouverture.
Est-ce que vous avez un exemple de témoignage d'une femme qui vous a particulièrement touchée ?
Elles m'ont toutes touchée, ne serait-ce que par leur sourire à chaque fois que j'arrivais en cours. Chaque atelier, elle montrait énormément d'entrain. C'était pas facile pour elle de se concentrer parce qu'en fait, elle s'occupait en parallèle de leur enfant. Au milieu de l'atelier, elle devait le quitter pour le changer, revenir, le nourrir, essuyer les larmes, etc. Mais c'était leur rayonnement, leur sourire sur leur visage de jeune fille, de jeune mère, et leur gratitude qui était extrêmement, extrêmement touchant.
Votre acclimatation s'est bien passée, Bertie. Vous diriez que vous avez tout de suite embrassé la culture malgache ?
J'ai tout de suite adhéré à la culture malgache. Après, dire que j'ai embrassé la culture malgache, ce serait un peu présomptueux, parce que je pense que pour véritablement comprendre toutes les finesses d'une culture, il faut énormément de temps. Et ceci, il fallait absolument qu'on se le répète souvent en tant que volontaire. Avoir toujours cette démarche d'humilité et de se dire, en fait, nous sommes là pour un temps extrêmement restreint. Moi, j'étais là pour 7 mois. Et c'est pas au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, 7 mois, même un an qu'on a cerné toute la culture, toute leur histoire, leur passé, leurs coutumes, la religion traditionnelle, et qu'on peut complètement comprendre leur mode de fonctionnement et pourquoi ils ont telle réaction, pourquoi ils ont tel usage. Donc j'étais très curieuse de découvrir cette culture, mais il fallait souvent que je me rappelle, même dans les projets, quand je travaillais avec les malgaches sur place, de me dire, bah, là, on n'a pas la même manière de voir, on ne voit pas les mêmes priorités, ne serait-ce que pour ce projet d'éphimère Miavouten. Mais je me mets en retrait parce que je ne connais pas, en fait, cette culture. Et je ne suis pas là pour remplacer les malgaches sur place qui tiennent les projets ou qui travaillent avec nous. On est là comme support.
Allez aux pauvres, c'est là que vous trouverez Dieu. Ce que vous faites pour eux, c'est à Dieu même que vous le faites. Est-ce que vous diriez que vous avez trouvé Dieu, Bertille, dans cette mission ?
Oui, complètement. Complètement, Dieu était là à chaque étape. C'est lui qui avait inscrit en moi ce désir de partir en mission. Désir qui, forcément, a été éprouvé. Et ensuite, j'ai choisi de l'abandon, clairement. Une fois sur place, quand on m'a proposé le premier projet, ça a été, pour te le confier, un peu dur, parce qu'on m'a demandé de créer un centre informatique pour des jeunes qui n'avaient jamais touché un ordinateur. Moi, je n'aime pas tellement l'informatique et ce n'est pas tellement mon domaine de compétences non plus. Et je ne me voyais pas partir à Madagascar et être derrière un ordi. Du coup, ça a été un peu dur et je me suis au départ un peu révoltée intérieurement en me disant bah, « Seigneur, quel est le sens de cette mission ?» Et en fait, en choisissant de lui faire confiance, de me dire « En fait, je vais tenter le coup, je vais voir ce que ça donne. » Et puis, il y a sûrement plein d'autres choses à faire à côté, plein de projets, notamment un centre d'accueil pour des personnes en situation de handicap, des écoles qui avaient besoin d'enseignants en français, ce projet Miavouten dont je t'ai parlé, et plein d'autres choses à côté. Petit à petit, la mission s'est dessinée, et dans chacun de ces lieux, j'ai trouvé Dieu qui s'exprimait de manière différente par les personnes que je rencontrais. Et même dans les courts voyages que j'ai pu faire à Madagascar, quelquefois je culpabilisais un peu de voyager alors que eux ne sortent jamais de leur ville ou vont dans un rayon très proche de leur ville de départ. Et du coup, je disais au Seigneur, bah voilà, t'es mon guide touristique, à toi de faire en sorte que ce voyage s'inscrive également dans ma mission. Et à chaque fois, j'avais soit des rencontres, soit des expériences, soit des épreuves qui faisait que mon voyage était complètement cohérent avec ma mission. Et en même temps, je vivais mes rêves avec le Seigneur. Donc, ouais, il était complètement là de A à Z.
Aujourd'hui, revenu en France, est-ce que vous diriez que votre vie a changé ?
Ma vie n'a pas forcément été révolutionnée, même si je pense qu'il y a un avant et un après Madagascar, ça c'est certain. Je l'ai vraiment ressenti, mes proches aussi. Et puis, je pense que ce qui fondamentalement a été inscrit en moi par cette expérience, c'est cette priorité de la mission, cette priorité donnée aux pauvres. Et à Paris, quelquefois, c'est difficile. On est emporté dans le tourbillon de la vie parisienne, des amis, du travail, de rien que ce luxe de vivre à Paris. Mais au fond de moi, il y a toujours, je pense, cette soif de mission et cette urgence qui est inscrite en moi. La mission, elle appartient à tous, mais je tiens aussi à préciser qu'avant de donner, il faut savoir qui on est. Avant de partir en mission, il faut être quelqu'un. Donc bien sûr, il y a un temps pour tout, et chacun a une manière différente de vivre la mission. Mais c'est un chemin qui est magnifique et qui, moi, a véritablement changé ma vie.
Aujourd'hui, vous diriez que vous avez encore une relation avec les missions étrangères de Paris, par exemple à travers l'École de Madagascar ?
Oui, bien sûr. Bah, c'est une des raisons aussi pour lesquelles j'ai décidé d'intégrer l'École de Madagascar. Donc, j'en suis aujourd'hui la trésorière. Et grâce à cette association, je revois les anciens volontaires avec qui j'étais en mission. Et ça me permet aussi de profiter de toutes les belles opportunités, toutes les propositions que nous font les MEP, ne serait-ce que les JMJ que j'ai pu vivre avec les MEP, c'était magique. La messe des cendres, le dîner en blanc, ce sont tout plein de propositions géniales qui me procure beaucoup de joie.
Et aujourd'hui, en quelques secondes, comment peut-on aider École de Madagascar ?
Alors, pour tous les particuliers, on peut se rendre sur le site École de Madagascar et il y a un lien qui permet de faire un don qui est déductible des impôts. Nous accueillons aussi avec grand plaisir les mécénats d'entreprise. Merci d'avance à tous ceux qui voudront aider École de Madagascar et en particulier les jeunes enfants malgaches qui seront scolarisés.
Un immense merci Bertie de nous avoir présenté École de Madagascar. Amis auditeurs, je vous rappelle que les missions étrangères de Paris seront ravis de vous accueillir pour vous présenter leur exposition Lego qui vous fait entrer dans le cœur du quotidien des pères MEP, notamment à Madagascar. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode d'Orient Extrême. Je vous souhaite une excellente fin de journée, que la paix soit avec vous.